Et bonjour, bienvenue dans FNIM Top Chrono, une journée entière de tables rondes, 8 tables rondes en cette rentrée 2025. On aborde tous les sujets. Alors après avoir posé le diagnostic de la crise du logement, on zoome sur un sujet très concret, faut-il passer par un professionnel de l'immobilier ? Alors qu'il s'agisse de louer ou de vendre un bien, les particuliers, il faut dire, hésitent parfois entre les frais d'agence d'un côté, la sécurité de l'autre. Or, le débat revient régulièrement, faut-il jusqu'à rendre cette intermédiation obligatoire, comme l'a suggéré le député François Jolivet, ou au contraire, faut-il miser plutôt sur l'incitation ? C'est ce dont nous allons parler avec mes trois invités. On va parler sans détour, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans tabou. Catherine Albanesi, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravie de vous recevoir, merci d'être avec nous. Audrey Morvan, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes directrice et fondatrice de Morvan Immobilier. Et Corinne Bérec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un plateau féminin aujourd'hui.
Oui, c'est très bien.
Voilà, vice-présidente d'Orpi. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les avantages immédiats à passer par un professionnel en location comme en transaction, qui veut se lancer ? Allez, Catherine, je vous sens bien.
La première chose, c'est la sécurité. En fait, le gros avantage d'un locataire ou d'un propriétaire de passer par l'intermédiation locative, c'est d'avoir la sécurité, d'avoir un logement décent, d'avoir un bail conforme, d'avoir un DPE qui soit conforme, un état des lieux qui tienne la route. Donc, nous sommes les garants de la sécurité.
C'est vrai qu'on n'a pas de questions à se poser quand non. On est un particulier, qu'on passe par un professionnel. Voilà, tout est carré, tout est clair, normalement.
Évidemment.
Si le professionnel.
Évidemment.
Audrey, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je confirme tout à fait. Je vais rajouter également, pour la location, même la transaction, on valide en amont, souvent avec des professionnels ou même les banques, le financement. Oui. Dans la gestion, on valide les dossiers. Si les dossiers, quand même, il y a quand même un travail, on rédige les baux, on accompagne pour les compromis. Donc, en effet, c'est plus cadré. Aujourd'hui, un particulier, lui, a des difficultés à le faire, ne serait-ce que pour une visite. On demande la pièce d'identité, on réalise un bon de visite. Aujourd'hui, le particulier ne peut pas demander une pièce d'identité, par exemple. Donc déjà, il y a un certain confort et on sait qui on fait visiter, qui on introduit dans, finalement, le bien du particulier. Et lui, en revanche, ne peut pas le faire. Donc déjà, en effet, c'est une sécurité et ça peut totalement rassurer.
Et un gain de temps.
Et un gain de temps, tout à fait.
C'est vrai que quand on travaille, quand on a des vies à mille à l'heure, on n'a pas forcément le temps de faire des visites. Pour la location, Corinne, quels sont les avantages à passer par un professionnel ?
Complètement en phase avec mes deux consoeurs sur la sécurité, je dirais, je rajouterais la compétence des collaborateurs, parce que si on a des collaborateurs qui connaissent tous les sujets, en location, en transaction également, qui soient capables de bien orienter le client bailleur comme le client locataire, c'est formidable. Et j'ajoute que la FNIM a été quand même, grâce à Loïc, a gagné le combat donc des heures de formation obligatoires. Alors, ça va venir. Hein. On espère que ce changement de gouvernement va rien changer. Mais on est très, très content d'avoir gagné ce combat grâce à Loïc, parce que plus on aura des personnes compétentes dans en transaction et en ADB, plus elles seront compétentes, plus elles seront formées, meilleur le conseil sera donc très très bon, et donc ça encouragera les clients en location, les bailleurs et les propriétaires à se diriger plus facilement en agence.
Parce que c'est vrai que parfois on voit des commentaires, des retours, des mauvais retours d'expérience de certains Français avec des professionnels de l'immobilier. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous pouvez être victime de personnes mal formées ou qui font mal leur travail ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Alors, c'est un avis purement personnel, mais je crois surtout que les avis qu'on a sont, comme par hasard, on a souvent que des avis négatifs. Et
pourquoi ?
En fait, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui se complaisent à dire qu'on n'a pas. Vous avez plus de gens qui donnent un avis négatif que des gens qui donnent des avis positifs, alors que 99,9% ouais. de nos clients sont satisfaits. Ils sont satisfaits de nos services, ils sont satisfaits de nos compétences et ils sont satisfaits du service qu'on leur apporte. puisqu'on est là aussi pour leur apporter un service, leur apporter... L'avantage de l'intermédiation, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'on est le relais entre les gens. Et on est là pour dédramatiser les conflits. Et bah, parfois, des fois, ça ne marche pas. Et vous avez malheureusement souvent des avis négatifs qui sont en plus souvent infondés.
Audrey, vous vouliez...
Je confirme aussi, hein, c'est généralement, et puis on le voit dans tout domaine, on fait émerger le négatif, mais c'est vrai que le positif, on a du mal finalement à en le sortir, à le dire, et c'est vrai que la plupart de nos clients, en effet, sont satisfaits. Mais pour rejoindre la question de départ, en effet, il y a tout de même, aujourd'hui, on parle de formation, il y a aujourd'hui des professionnels qui exercent. Bon, certains ne sont pas titulaires directement de la carte T, G ou S, mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas de vérification parfois, ou alors c'est des formations superflues. Et en effet, aujourd'hui, la formation, c'est très important. Les mises à jour également, vérifier les attestations, et des fois, il y a un manquement. Et c'est vrai qu'on peut le subir. Moi, je fais plus de transactions. Et dans la transaction, on peut des fois le subir. Les particuliers ne sont pas rassurés. Ils ont eu des mauvaises expériences. Mais nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment un accompagnement. Un accompagnement au sens large. Hein. On a possibilité, voilà, au niveau juridique, on peut encadrer, on rassure, on fait gagner un certain temps. On a aussi un avis professionnel. On a une expérience, donc ne serait-ce que pour établir des estimations de loyer, des estimations pour des biens immobiliers. Là, aujourd'hui, un particulier, tout seul, il aura des difficultés. Même si aujourd'hui, il y a des outils, ne serait-ce que l'expérience... Enfin, elle est incontournable.
Et justement, alors c'est ça, parce qu'il y a des outils, il y a, je pense à l'intelligence artificielle. Maintenant, n'importe qui peut utiliser ChatGPT, Perplexity, c'est un puits de savoir. On voit sur les textes de loi, sur plein de choses, on peut tout savoir avec notre téléphone. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur d'avoir votre métier menacé par cette intelligence artificielle ?
Non, alors l'IA, bien sûr, on va être moteur sur les IA et l'IA va nous aider, mais ça remplacera pas l'humain. Et pour revenir sur le propos sur les mécontents, où je suis complètement en phase avec mes consoeurs, pourquoi aussi... Alors, on a plus de mécontents dans la location. On a plus de mauvais commentaires sur nos candidats locataires. Et pourquoi on a autant de mauvais commentaires ? C'est qu'on ne peut pas faire de la qualité. Quand on reçoit des centaines de mails sur un logement dans les grandes villes ou pas, bah forcément que ça engendre des mécontents. Au mieux, on va leur renvoyer un mail en leur disant que le dossier a été loué, mais ça engendre tellement de tensions, de colère, que forcément on peut avoir des avis négatifs, et là c'est pas justifié, il n'y a pas de solution. Voilà. Mais pour revenir à votre question, oui, l'IA va nous aider dans le quotidien de nos agences, mais ne remplacera pas en fait le collaborateur qui va écouter son client et qui va avoir le bon diagnostic et les bons conseils.
Oui, parce qu'en fait, je pensais à l'IA, parce que bon, par exemple, les plateformes, pour les citer, type Le Bon Coin, type PAP, c'est vrai que, est-ce que on peut dire qu'elles vous ont un petit peu pris des clients, dans le sens où des Français qui avant seraient passés par un professionnel de l'immobilier se disent « bon, bah moi je vais vendre mon bien tout seul ». Est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'avec ce savoir qu'on a à travers les intelligences artificielles, on n'a plus besoin des conseils que vous apportez? Est-ce que vous l'avez justement dit, hein, ça rassure, vous faites, il y a quand même tout un travail qui est fait en amont, un travail non négligeable. Est-ce que vous n'avez pas peur à terme d'être remplacé sur ce travail-là par les intelligences artificielles?
Ça va nous aider. Ça va nous aider, justement profitons de cette intelligence, même si elle est artificielle,
ouais.
Mais elle va nous aider. Nous, chez Orpion, on a mis déjà l'intelligence artificielle dans notre logiciel métier. Donc en fait, l'IA prend le relais du client, mais l'adresse de toute façon à notre agence. Donc ça va nous aider.
Et comme vous venez de le signaler, en fait, l'IA, c'est l'éventuel savoir, puisque que les sources ne sont pas forcément évidentes. Mais dans notre métier, la priorité... Alors oui, ça va nous aider à rédiger des annonces. Oui, ça va nous aider à répondre à des mails parfois compliqués. Mais ça ne remplacera jamais l'humain.
Bien sûr.
Notre métier est un métier d'humain avant tout. Et le seul avantage que moi j'y vois à l'intelligence artificielle, c'est nous faire gagner du temps pour pouvoir avoir plus de temps pour s'occuper de l'humain. Parce que sans l'humain, notre métier n'existe pas.
Exactement. Elle va qualifier nos leads.
ça.
Vous avez toutes des agences vitrées, on est d'accord.
Oui.
Donc avec une vitrine pour nos auditeurs.
Oui.
C'est vrai que ça rassure beaucoup, ça, les Français. Plusieurs études qui sont sorties, le fait de passer la porte, d'aller discuter avec son agent immobilier. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des retours d'expérience, Audrey par exemple, des exemples où,
Complètement, ça rassure, ne serait-ce dans tous les la transaction. En fait, aujourd'hui, si on a envie de nous voir physiquement, on peut nous recevoir, on a des salles de réunion, on peut signer des compromis en agence. Complètement. Si des fois, on veut être joint au téléphone, on ne répond pas, on passe la porte, on nous rencontre. Et oui, c'est le cœur de notre métier aujourd'hui, l'humain, c'est le cœur. Et là, l'IA ne le remplacera jamais. On fait des accompagnements. On crée vraiment des liens. Aujourd'hui, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous. Il y a des liens qui sont créés. On accompagne des personnes dans des successions. On accompagne des personnes ensuite dans des familles qui se reconstituent. On est même des fois invité à des mariages, à des crémaillères. Ouais. Et ça, aujourd'hui, l'IA ne pourra pas le faire. Et puis, quand on accompagne des personnes, par exemple, qui se retrouvent seules parce qu'elles ont perdu leur mari ou des personnes âgées, aujourd'hui, on va passer du temps avec elles. Elles vont pouvoir nous rencontrer en agence, puisqu'aujourd'hui, même si tout se passe beaucoup en digital, ne serait-ce que des signatures de mandat et autres, il y a des personnes âgées aujourd'hui qui n'ont même pas de téléphone mobile aujourd'hui. Et le fait de venir en agence, de pouvoir signer des documents en agence, qu'on les accompagne en agence, ça change tout. Et ça clairement, c'est quelque chose, c'est incontournable et ça rassure. Et moi, je prône pour ça. J'essaye. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, on le sait, il y a quand même de nombreuses agences qui ont fermé. Il y a quand même beaucoup de concurrence sur le marché, mais vraiment avoir une agence vitrine, ça changera pas et ça rassure et ça confirme. On a des documents dans les agences, on confirme. Il y a tout qui doit être confirmé, nos numéros de carte, notre garantie. Tout le monde ne peut pas le présenter quand on travaille de chez soi, en fait.
Vous êtes un véritable tiers de confiance, en fait.
Ah, c'est certain. Et puis c'est le certain. Lien social, n'oublions pas. En fait, on a des clients qui viennent dans nos agences, on a fait des transactions, des baux, elles viennent juste nous dire bonjour, elles viennent prendre un café. Ouais. Donc en fait, l'IA ne va pas remplacer le lien social. Justement, grâce, pour capter les leads, c'est très bien, on va augmenter nos clientèles, mais après, rien ne remplace en fait le rapport humain et de recevoir un client dans nos agences vitrées pour parler d'autre chose et qui sera, en fait, on aura une continuité en fait de ce lien, et puis il repensera à nous quand quelques années plus tard.
Alors maintenant qu'on a posé le contexte, on va parler de ce que vous défendez chacune. Alors Audrey et Catherine, vous défendez une obligation légale donc de rendre l'intermédiation obligatoire. Pourquoi est-ce essentiel pour vous?
On en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de sécurité. L'avantage de passer par un professionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On vérifie la décence du logement, donc on loue pas un appartement sans avoir vérifié que le DPE est conforme, qu'on soit bien dans les bons DPE, que la surface soit la bonne surface, dans le cadre de l'encadrement des loyers, qu'on applique bien le bon loyer. Donc tout l'état des lieux est fait de manière conforme et pas sur un bout de papier. Enfin, on a cet accompagnement qui fait que ça simplifierait. C'est une des propositions que Loïc a fait, sur lesquelles on a travaillé au sein de la commission gestion de la fédération, de pouvoir développer nos marques de marché. Pourquoi ? Parce que à l'époque de l'ancienne présidence, Jean-Marc Torollion avait fait faire une étude auprès d'un échantillon de bailleurs et 72% des gens avaient expliqué qu'en fait, ils préféraient louer par eux-mêmes pour pouvoir s'affranchir de toutes les obligations qui incombent aux professionnels. Par rapport à l'État, par rapport aux candidats locataires, par rapport à nos bailleurs, en fait, le fait de passer par l'intermédiation locative va permettre de pouvoir sécuriser, mais ça sécurisera le locataire, bien évidemment, puisque c'est le consommateur, mais ça permet de sécuriser aussi le bailleur. Au moins, on a des actes qui tiennent la route et l'État serait, à mon avis, beaucoup plus sûr d'avoir quelque chose qui respecte. Alors après, il faut trouver, et c'est là où il y a encore du travail, trouver par quelle manière et par quels moyens on va le mettre en place. Parce que c'est évident que les gens qui ne veulent pas passer par un professionnel, c'est en gros parce qu'ils veulent pas payer les honoraires de location. Enfin, il y a un moment aussi où il faut...
Et vous comprenez quand, quand on vous reproche d'avoir des honoraires trop élevés? Est-ce que vous entendez ça?
Les honoraires ne sont pas trop élevés par rapport à ce qu'on apporte?
1 euro le mètre carré en état des lieux.
Oui, voilà. Oui, là, on parle de gestion, mais ne serait-ce qu'en transaction, en gestion, les honoraires, alors certes, on va nous dire ils sont trop élevés, mais au final, je me rapproche, on va avoir un gain de temps, on va avoir une sécurité juridique. Finalement, si eux, ils vont se lancer tout seuls, là, je rebascule sur la transaction, puisque je fais plus de transactions, finalement, ils vont mal estimer leurs biens, ils vont perdre du temps, ils vont faire des visites, ils vont peut-être signer un compromis avec des personnes qui ne sont pas finançables, le compromis, ils ne vont pas arriver jusqu'à l'acte authentique, ils vont perdre du temps, donc au final, certes, des honoraires, mais on va avoir un gain financier et un gain de temps. Donc, ça se justifie complètement. Donc, moi, je confirme et je me rapproche complètement. Je suis pour l'obligation, oui, de passer par des professionnels, puisqu'aujourd'hui, pour moi, ça conforme un accompagnement humain et une sécurité juridique.
Alors, juste avant de continuer, est-ce que vous pouvez toutes vous rapprocher de votre micro? C'est la technique qui me demande ça. Question technique. C'est vrai que là, c'est important ce que vous soulevez. C'est un service en fait qu'on paye en fait avec ses honoraires, parce qu'il faut quand même que vous soyez rémunéré en tant que professionnel. Et c'est vrai que c'est très français en fait de critiquer un service payant. Aux États-Unis, c'est ce qui se fait. Hein. Les Américains n'hésitent pas à payer cher pour avoir un service de qualité. C'est vrai qu'en France, dès que c'est du service, on veut baisser les prix. Est-ce que vous...
La négociation constante, en fait.
C'est ça. Et c'est ce que vous avez à chaque fois pour les transactions. Alors peut-être moins pour la gestion locative, mais c'est très encadré. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez faible. Vous l'avez dit, hein, vos honoraires, mais c'est vrai que pour la transaction, alors surtout quand on voit sur des gros montants, tout de suite, ça fait...
Moi, sur mon marché, aujourd'hui, ce qui va être difficile, clairement, j'ai des agences qui se sont implantées, qui étaient anciennement mandataires, qui se sont implantées en tant qu'agence. Aujourd'hui, elles vont pratiquer des honoraires défiant tant de concurrents. J'ose même pas citer le montant. Donc, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, le particulier, quand il va avoir plusieurs estimations et qu'on va... finalement leur proposer les honoraires, ils ne vont pas comprendre. Donc nous, après, c'est notre travail de les rassurer, de montrer aujourd'hui que, justement, on est professionnel, on a des connaissances, on a des outils, on peut leur permettre de vendre de façon vraiment sérieuse, et ça confirme aussi les honoraires. Alors, bien sûr, on va toujours avoir des personnes qui vont chercher cette négociation, et comme vous dites, c'est très français. Hein. Là, clairement, on le voit aux États-Unis, même la façon de travailler dans l'immobilier n'est pas la même. Mais en fait, aujourd'hui, faut défendre nos honoraires et en fait, ces honoraires sont justifiés de par notre travail, clairement. Mais en effet, on a des acteurs aujourd'hui qui sont sur le marché qui nous handicapent considérablement tout de même.
Vous parlez des mandataires qui cassent les codes, qui cassent les prix. C'est vrai, il y a des ménages qui passent la porte de votre agence et qui vous disent, voilà, pourquoi eux prennent tant et vous...
Tout à fait, bien sûr.
Ouais. Et qui vous demande.
Ça arrive.
Et vous expliquez quoi, le business model? Parce que c'est pas le même business model.
Exactement,
en fait.
On explique le business model. Et clairement.
Eux n'ont pas de vitrine, ils n'ont pas de murs à payer, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la carte professionnelle.
C'est ça, l'accompagnement. Et puis même, on voit la façon de travailler. Après, il y a des mandataires aujourd'hui qui travaillent très bien aussi. Hein.
Oui, comme il y a certains agents immobiliers qui travaillent
tout
pas
à
bien.
Fait. Mais nous, on le justifie ainsi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, au sein de l'agence, on a une façon de travailler, on a une image, tout se justifie, on est réactif, on accompagne. Et justement, le côté humain, je le rejoins, c'est que nous, on a vraiment cet accompagnement humain. Ce n'est pas une transaction, ce n'est pas un numéro. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont une histoire et on les suit. Et nous, moi, aujourd'hui, clairement, c'est ma force au sein de ma structure. Il y a d'autres agences qui fonctionnent ainsi. On le justifie aussi comme ça. Il n'y a pas que l'agence vitrine, puisqu'aujourd'hui, ils vont justifier qu'ils ont des bureaux. Donc, on ne va pas jouer que sur ça. Mais en partie, oui, c'est...
Corinne, en revanche, vous n'êtes pas pour une obligation de...
Alors, je suis plus mitigée. Il y a deux secteurs. Il y a l'administration de biens. Je pense que là, je rejoins ma consoeur. Par exemple, pour les locations, et pour là, je pense que ça aurait vraiment un sens de la rendre obligatoire. Pourquoi ? Ça nous arrive à toutes, en administration de biens, à tous les confrères, d'avoir des clients bailleurs qui ne veulent pas de l'encadrement des loyers ou qui veulent contourner les lois. En fait, comme il y a eu cet encadrement des loyers, il y a des dérives. Et si vous ouvrez les portails et si vous mettez sur le lien, vous voyez souvent bail meublé ou bail civil obligatoire, etc. Donc ça, c'est juste un moyen pour contourner la loi. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Ça veut dire que ça accroît la tension locative et ça permet à des particuliers... On refuse parfois des dossiers. Quand on a un client qui voudrait... en fait aller contre la loi discrimination ou anti-discrimination ou qui veut pratiquer des loyers qui sont hors encadrement, bah, on ne prend pas en fait ce dossier. Et qu'est-ce qui se passe ? Et ben, en fait, ce dossier, il va le mettre une annonce dans le particulier et il aura encore, il aura des centaines de demandes.
Ah oui, vu que tout est tendu.
Qu'est-ce qui va se passer, le locataire ? Ouais. Bah, il n'a pas le choix, il faut qu'il se loge. Donc il va accepter, ça va pas être son ça va être son domicile principal, mais il va accepter la règle du jeu que lui fixe le propriétaire parce qu'il doit se loger. Donc ça, non. Ça, dans ce cas-là, cette loi a un réel bon sens parce que permettrait de, peut-être d'assainir un peu plus ce marché de la location et d'être une petite solution à la tension locative, même si c'est pas assez. Au niveau de la transaction, je suis plus mitigée parce que moi, je fais partie d'une coopérative, hein, Orpi, et on s'aperçoit que rendre les choses obligatoires, c'est pas toujours la meilleure façon de convaincre. Je suis plutôt sur sur un accompagnement pour persuader en fait les clients. Et là, je suis plus tempérée parce que si on oblige les clients à passer par une agence en transaction, on va peut-être engendrer la colère et ça va peut-être très difficile à travailler, en fait, ces clients qui sont obligés. Donc, plus mitigés pour la transaction.
Donc, des clients plus réfractaires, c'est ça ?
Oui, plus réfractaires. Voilà, si on oblige les gens, on va avoir, quand on oblige un collaborateur parfois à faire des tâches, si on n'a pas de pédagogie, on ne va pas arriver à nos fins parce que ça va engendrer de la colère. Donc, la pédagogie me semble plus importante. Et donc, plutôt contre l'intermédiation obligatoire pour la transaction.
C'est quelque chose auquel vous avez pensé, à laquelle vous avez pensé, ça justement, une colère des Français si jamais on rend l'intermédiation obligatoire.
Tout ce qui est encadrement, contrainte, on connaît tous nos concitoyens. Le Français n'aime pas qu'on lui impose des choses. Donc tout ce qui est encadrement, obligation, contrainte, oui, forcément. Forcément, ça risque de générer la colère. En cette journée, on voit bien à aujourd'hui, et avec ce qui se passe encore plus aujourd'hui, que les gens n'aiment pas la contrainte, que les gens ont besoin de leur liberté. La France est un pays de liberté, mais liberté dans tous les sens du terme. Et de créer des cadres et des obligations risque en effet d'énerver un peu les Français. Et c'est vrai qu'en matière de gestion, c'est ce que vous disiez, en fait. En matière de gestion, c'est plus pour sécuriser, en fait, plutôt que contraindre. Et l'avantage est là. C'est que il faut qu'on arrive à faire passer le message que, le professionnel est, encore une fois, hein, je vais rester sur le même mot, mais c'est pour apporter de la sécurité aussi bien à l'acquéreur qu'au vendeur, qu'au locataire et au bailleur.
Et on n'a pas parlé de la GLI, la garantie loyer impayé, quand vous faites de la DB, justement. C'est vrai que ça, c'est un avantage qu'a le propriétaire quand il passe par un professionnel. Parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une GLI sans passer par un...
Si, c'est possible.
Ah, c'est possible
Si, c'est possible. Oui. C'est possible, mais les conditions financières ne sont pas les mêmes.
Oui.
Les garanties sont les mêmes, hein, puisque tous les assureurs font plus ou moins la même chose. Mais on n'apporte pas que le service de la garantie de loyer impayé. Par exemple, selon les profils, on a aussi, on utilise des dispositifs d'État. Par exemple, pour des locataires, les jeunes, les étudiants, les ménages en transition, on utilise Visale.
Ouais.
Donc, on est aussi...
Visale, c'est pour ceux qui n'ont pas de garant, hein, je rappelle à nos auditeurs.
Visale, c'est pour ceux qui n'ont pas de garant.
Faire une demande en ligne.
C'est exactement.
Sur visale.fr.
Tout à fait. Donc, en fait, on est là pour apporter des solutions, et c'est la plus-value de l'administrateur de biens, pour apporter des solutions à chaque cas. Chaque cas, chaque locataire, chaque propriétaire est différent. Le propriétaire, il a besoin, s'il met son appartement en location, il veut participer à l'effort de loger ses concitoyens, mais il a aussi des intérêts en face qui sont financiers. Donc c'est vrai que la première des questions du propriétaire et le premier frein, c'est « Ok, moi je veux bien louer mon appart, mais je veux que mon loyer soit payé parce que derrière j'ai crédit, obligation ou pas obligation parce qu'ils n'ont pas tous un crédit derrière. Moi, la majorité
la plupart, quand même.
Pas forcément. Vous avez une grosse partie des... Alors, en tout cas, dans mon portefeuille, c'est le cas, parce que les investisseurs, les jeunes, ils veulent plus trop investir. On en reparlera peut-être après. Mais vous avez beaucoup de propriétaires qui sont des gens qui sont des personnes âgées et qui ont constitué ce patrimoine de un ou deux lots pour pouvoir leur faire un complément de retraite. C'est ce qu'essayent de faire les jeunes maintenant. Parce que les jeunes aussi veulent investir, alors bien évidemment pour loger les Français, mais aussi pour se constituer petit à petit un capital pour leur retraite. Parce qu'on sait qu'à aujourd'hui, ben, on ne sait pas trop... Enfin, on n'a pas de visibilité sur l'avenir.
Et c'est mal parti.
Les signaux ne sont pas forcément ouverts.
C'est exactement. Ouais.
On apporte en fonction de la configuration de chacun de nos bailleurs. Et c'est l'avantage de l'intermédiation locative, c'est que notre bailleur, on le connaît. Notre bailleur, il vient chez nous, il y a une histoire qui se crée avec le bailleur et après avec le locataire. Moi, je suis fan de mon petit jeune qui rentre, qui fait son premier boulot et puis qui me dit, Madame Albanese, je vais être obligée de donner mon congé à mon logement parce que ça y est, je m'installe et j'achète un appart. Et puis après, voilà notre rôle. On est là pour faire grandir des histoires. Et on apporte les services en fonction de chaque histoire, en fait.
Vous vivez la même chose, que vous ressentez la même chose?
Ah oui, totalement. Parce que je fais un peu de gestion, beaucoup plus de transactions, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est un suivi. Et je rejoins totalement, on le voit, hein. Surtout en France, on le dit encore, lorsqu'il y a des obligations ou lorsqu'on impose, entre guillemets, quelque chose, c'est très compliqué. On est beaucoup aujourd'hui dans un esprit de rébellion constant. Mais peut-être si on accompagne progressivement, si on fait comprendre, il y a des choses aujourd'hui, plusieurs éléments qu'on a pu mettre en place, le particulier pourra très, très bien le comprendre et tout se justifie en soi. Même si aujourd'hui... lorsqu'il effectue une vente par la suite, il sera accompagné par son notaire. Tout ce qu'il va faire en amont, tout ce qu'une agence immobilière, tout ce qu'un agent finalement va pouvoir le faire en l'accompagnant, là, ça reste un professionnel. En fait, aujourd'hui, chacun son métier. Donc en fait, un particulier, certes, c'est son bien, mais ce n'est pas son métier finalement de vendre son bien. Donc, le fait de rendre obligatoire, c'est encadré, il y aura un gain de temps, même en termes de prix, ne serait-ce que de prix, puisqu'aujourd'hui, en particulier, c'est ce que je dis, il fait une estimation, mais il n'a pas un prix, donc il va mettre un prix, alors on va se retrouver avec des...
Il va tenter, en fait.
Il va tenter, en fait. Et nous, en tant que professionnels, on est là pour le faire entendre. Et quand il a une offre aussi, ou quand il y a des dossiers pour de la location, on est là pour lui faire entendre, voilà, aujourd'hui, on est au prix juste, et des fois, le particulier, tout seul, n'y arrivera pas, il tombera sur des mauvais dossiers. Donc pour moi, rendre obligatoire, je le confirme, mais en effet, il faut que ce soit progressif.
Peut-être par étapes aussi.
Voilà, c'est ça, par étapes.
Des étapes de... Voilà, parce qu'en fait, un particulier qui ne veut pas d'agence, on va quand même chez lui. On visite, dans tous ces pays. S'il ne veut pas nous recevoir, je pense que le premier rendre obligatoire, la première visite quand on se rend chez lui, ça risque d'être compliqué. Mais peut-être après, il y a les visites et puis il y a la négociation. Donc en fait, il faudrait peut-être séparer toutes les étapes du parcours, en fait, jusqu'à la signature de l'acte authentique, et puis définir peut-être quelques étapes obligatoires. Mmh. Mais d'emblée, comme ça, sur le parcours client, je le vois pas.
Tout à l'heure, Corinne, vous avez évoqué l'encadrement des loyers. Mmh. Justement, quel regard portez-vous sur l'encadrement des loyers? On parlait des investisseurs. Est-ce que c'est réellement efficace ou justement c'est décourageant pour les investisseurs? Alors quand je dis réellement efficace, c'est pour encadrer les loyers et permettre une baisse du pouvoir, une augmentation du pouvoir d'achat. Au final, c'est ça la finalité, hein.
Alors, moi, je suis pas complètement contre les lois qui ont émergé depuis quelques années. Si on revient à la loi climat et résilience, je pense que c'est très bien pour les générations futures. Donc, mal encadré, mais cette loi, en fait, elle a un sens au départ. Sur l'encadrement des loyers, pareil, on a une dérive où il y a une telle tension parce qu'en fait, pourquoi on arrive à cette situation-là? C'est qu'on a un cumul de manque de logements en France depuis des décennies et il nous faudrait plus d'un million de logements sur le marché. Donc, tant qu'on n'aura pas réfléchir en amont sur la construction et débloquer en fait et construire, on aura toujours cette tension. Donc, plus de logements, donc déjà des bonnes lois pour avoir, pour faciliter le neuf qui est en grande souffrance. Ça ferait qu'il y aurait plus d'appartements sur le marché locatif. Et puis, l'encadrement des loyers, pour revenir dessus, c'est pas non plus une mauvaise loi. Toutes les dérives qu'on a, on est dans une telle, les locataires sont dans les grandes villes, sont dans une telle détresse qu'ils acceptent n'importe quoi, même s'ils peuvent pas le payer ou si, avec les, voilà. Donc, en fait, l'encadrement des loyers, pourquoi pas? Mais avec des vérifications beaucoup plus sévères et là
avoir pour les particuliers
ouais. oui parce que un c'est très très facile aujourd'hui de contourner les lois. Moi je veux 200 € de plus sur un loyer à Paris, je le mets dans le particulier et là qu'est-ce qui va se passer?
Il n'y a pas de contrôle,
donc le locataire il va le prendre. Alors on va vous dire oui, il peut faire une procédure, mais moi je connais bon nombre de locataires. Ils ont déjà eu le loyer, ils savent qu'ils payent trop cher, et ils n'ont pas envie d'aller dans le système judiciaire.
Parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver à la rue,
et puis ils ne veulent pas de mauvais rapports, etc. Ouais. Donc oui, il y en a qui vont, mais il y a... Voilà, donc là, si on imposait effectivement plus de contrôle, ça serait beaucoup plus juste pour l'ensemble de la profession.
Alors en revanche, ce qui est reproché par certains syndicats, c'est que, on va dire, le loyer de référence qui est imposé, en fait, pour justement encadrer le loyer, est trop bas. En fait, le calcul n'est pas bon. Voilà, grosso modo, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que on va se perdre. Mais c'est ce qui est reproché. Donc, plusieurs syndicats militent pour augmenter un petit peu le loyer de référence. Après l'encadrement des loyers, il n'y a pas que des personnes qui sont pour. Mais voilà, ça, ce sera le premier sujet.
C'est exactement comme la loi climat et résilience. Au départ, ça part d'une idée en fait qui est louable, sauf que ça a mal évolué, comme les honoraires de location ou d'état des lieux. Au départ, pourquoi pas, mais pourquoi aussi bas? Voilà, donc en fait, toute peine, le travail d'un professionnel est reconnu, il mérite des honoraires, et puis partons pas d'un prix qui n'est pas, qui est beaucoup trop bas pour le contexte.
Audrey, Catherine, même constat pour l'encadrement des loyers, ou vous êtes plus...
Alors, je suis...
Parce que vous l'avez dit, ça fait pire les investisseurs.
C'est ça, en fait, moi je suis... beaucoup moins tempéré. C'est-à-dire que, non, pour moi, l'encadrement des loyers est une mesure qui ne doit pas être généralisée. Pourquoi ? Elle fait fuir les investisseurs. Vous avez parlé des niveaux de loyer, le fait de vouloir augmenter le niveau de loyer. En fait, on a un problème d'injustice. On a obligé nos bailleurs, en zone tendue et en zone détendue, à faire de la rénovation énergétique pour pouvoir fournir aux locataires un logement décent. Ils ont donc investi une certaine somme d'argent et cet encadrement des loyers, qui est bloqué, ne permet pas de rendre à sa juste valeur le montant du loyer. Vous avez fait 40 000 euros de travaux ou 50 000 euros de travaux ou plus ou moins.
Vous ne pouvez pas répercuter sur le loyer.
Vous ne pouvez pas le répercuter puisque quand vous êtes dans l'encadrement des loyers et que vous êtes au taquet, et parce qu'il ne faut pas se leurrer, tout le monde a mis les loyers au taquet. Tout le monde est aux références majorées. Donc vous, votre propriétaire, il investit, il donne un meilleur logement à ses locataires et en fait, il ne peut pas, ça s'arrête là. Et du coup, le signal est mauvais. Il est mauvais parce que ceux qui ont été vertueux, on leur permet pas de pouvoir, entre guillemets, avoir un retour sur l'investissement qu'ils ont fait par rapport à...
Complètement d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi ? Si on allait en amont, parce que c'est la pression fiscale en France qui est beaucoup trop lourde sur les investisseurs. Si on n'a jamais autant de mises en location il y a très longtemps sur les lois Meignery, d'Eurobien, etc. Parce qu'on avait des déductions fiscales. Là, la pression fiscale est tellement forte que les investisseurs sont obligés de louer très très cher ou même de les dépasser parce que les déductions se sont au fil des années réduites en peau de chagrin. Donc remettons, encourageons. En fait, c'est un cercle vertueux. La construction, la défiscalisation mettraient beaucoup plus de biens sur le marché et puis ça serait un cercle vertueux pour les locataires.
C'est exactement ça. En fait, l'encadrement, oui, mais avec en face quelque chose, un avantage fiscal qui permette aux propriétaires de pouvoir avoir un retour sur investissement. Ça libérera du logement. ça créera du logement dans l'ancien et dans le neuf, hein, d'ailleurs. Hein, et ce sera plus juste. Et le locataire, lui, bah, il aura un loyer encadré. Donc, le locataire, lui, n'aura pas, parce qu'il faut voir aussi la difficulté de chacun à payer son loyer en fonction des loyers qui sont quand même particulièrement élevés. Donc, on ne touche pas à la partie du locataire et le locataire est protégé. Mais le bailleur, lui, eh bien, il a un avantage de mettre en location. Et tout ça, tout est lié, en fait. Et c'est le cercle vertueux, c'est exactement ce que vous disiez. Ouais. Et là, on va faire revenir des investisseurs. Et là, on va libérer du logement. Et là, on n'aura plus de problème. Si on a assez de logements, bah, mécaniquement, les loyers vont baisser. Donc, il n'y aura plus de problème.
Mais sauf qu'on n'aura jamais assez de logements.
Je rajouterai également aussi l'éducation de nos bailleurs. Parce qu'il fut un temps, on achetait... On faisait une défiscalisation des fois très très importante. On se faisait rembourser quasiment le montant de son prêt par le loyer. Et en plus, on voulait à la sortie une plus-value très importante. Cette époque est révolue. On ne peut pas, préparons la retraite, mais on ne peut pas gagner sur tous les tableaux et la défiscalisation et le loyer, qui est, loyer équilibré avec le remboursement et la plus-value. Donc voilà, après, je pense que c'est un gros travail d'éducation par rapport à nos clients en transaction.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Et puis pour en revenir à ce que vous disiez, c'était le statut du bailleur privé, hein, bon, qui s'éloigne de plus en plus avec la chute du gouvernement. Mais il y avait des groupes de travail. Il y a des groupes de travail qui ont travaillé dessus. Il y avait des propositions qui avaient été faites, des mesures pour inciter fiscalement les investisseurs à revenir sur le marché.
Mais... Ok, on recommence à zéro, c'est pas grave. Depuis le début de la mandature de Loïc, ce sera que la 4, 5, 6e fois. Mais c'est pas grave, on est là et on lâchera rien.
Alors, sûr qu'on reparte à zéro. D'ailleurs, la prochaine table ronde, c'est sur le statut du bailleur privé avec le co-auteur, le député Cosson, qui sera là à 11h sur ce plateau, justement, pour en discuter, voir ce qu'on fait après. Quelle sera la suite
oui, voilà, c'est ça. Les doigts.
De ce rapport. Je ne sais pas s'il sait lui-même, mais en tout cas, on va en discuter. Dernière chose sur laquelle peut-être je voulais revenir, c'est donc sur cette proposition du député, donc cette proposition qui avait été aussi lancée par la FNAIM de rendre obligatoire cette intermédiation. On en est où, en fait ? C'est une proposition qui avait été faite. Bon, ça avait été évoqué, mais il n'y a rien de concret. Hein,
ça n'a pas été voté ? Ça n'a pas été accepté ? Non, pour l'instant, non, il n'y a rien de concret, mais comme je vous le disais, on y travaille, Loïc y travaille, et on va lui apporter les arguments. La commission va travailler pour pouvoir apporter les arguments, pour essayer justement de pouvoir faire sortir un dispositif qui permettra, de sécuriser et nos locataires et d'accompagner nos locataires et nos propriétaires.
Eh bien, merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir de vous recevoir. Donc, on retient passer par un professionnel, c'est une sécurisation des baux, un respect des normes et un accompagnement face aux dérives du marché. Ça, on l'a bien compris. Mais la question reste ouverte. Faut-il aller jusqu'à l'obligation ou privilégier l'incitation et la valorisation des bonnes pratiques? En tout cas, une chose est sûre, dans un marché tendu, la confiance et la transparence aussi deviennent essentielles. À tout de suite donc pour une table ronde à 11h sur le statut du bailleur privé avec, je vous l'ai dit, le co-auteur du rapport, Michael Cosson, le député Cosson, qui viendra.